Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dose de France. Je suis Johan Collo, fondateur de la page Instagram Dose de France et du site internet demichelot.com dédié aux apéritifs et spiritueux français. Pour trouver des boissons de qualité artisanale et traditionnelle, rendez-vous sur demichelot.com. Rappel nécessaire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bonjour à tous les amis. Pour l'épisode du podcast numéro je ne sais plus combien. Je crois que c'est la première fois que je suis perdu. En plus, j'ai pas ma bonne chaise, celle qui fait pas de bruit. Et je me suis rendu compte ce matin, comme un guignol, que j'avais oublié de faire le podcast cette semaine. Je me suis dit, mais il manque un truc dans ma semaine là. Je comprends pas trop ce qui me manque, mais il manque un truc dans ma semaine. Et ben en fait, c'était de faire mon travail tout simplement, qui est de faire du contenu sur Internet. Déjà que je fais plus beaucoup de vidéos, mais alors si en plus j'oublie de faire mon podcast, je suis tellement enchevêtré dans un nombre de galères dont vous n'imaginez pas la taille avec mes entreprises, que j'en oublie même en fait, de faire les réseaux sociaux. C'est dingue. J'espère que je vais sortir de ce tunnel de problèmes rapidement avant la rentrée prochaine, parce que je n'en peux plus en ce moment, je suis rincé. Bref, j'ai décidé de me remettre à structurer un petit peu ce podcast parce que vous avez été pas mal à me faire cette remarque. Et puis moi aussi, honnêtement, ça m'aide à parler plus précisément, pas forcément plus longuement. Alors je vous avoue que j'ai un rendez-vous dans une heure, donc de toute façon, ça ne pourra pas dépasser une heure. Mais comme ça, ça m'aide à structurer ma pensée et à vous dire ce que j'avais envie de vous dire à chaque fois. Donc, ce ne sera pas forcément des rubriques, hein, mais c'est juste comme ça, une structure à haute voix. Donc là, la première partie, c'est ce que j'ai fait entre aujourd'hui et le dernier podcast. Est-ce qu'il y a des news, notamment au sujet de mes entreprises ? Oui. Je l'ai enregistré vendredi dernier, du coup, le dernier podcast. Et vendredi soir, on a fait une dégustation, du coup, privée à Issy-les-Moulineaux sur une péniche pour ceux qui avaient pris leur billet. Donc, il y avait entre 25 et 30 personnes, je ne sais plus. On avait fait ça pour la fête des pères. Alors, c'était un test, la première fois que je faisais ça. Et moi, perso, alors je sais que la plupart de ceux qui étaient là à cette soirée dégustation privée sont des gens du podcast, donc ça fait plaisir. Énormément de têtes que je n'avais pas vues avant, dans les précédents rendez-vous que j'avais pu faire physique. Donc c'est que ce podcast non seulement marche, vous donne envie d'aller plus loin, de découvrir ce que je fais. Et en plus, ça a totalement renouvelé les personnes qui me suivent, puisque c'était pas du tout les mêmes têtes que d'habitude. Et ça, c'est très cool, parce que moi, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, discuter. Donc vraiment, j'ai adoré. Et l'événement lui-même, moi, perso, j'ai adoré. Ça m'a rappelé mes années de caviste à expliquer à des gens qui s'y connaissent plus ou moins en alcool, qu'est-ce qu'on fait, l'intérêt de mes jobs, les décrire des bouteilles, expliquer comment c'est fabriqué, d'où ça vient, un petit peu d'histoire, parler du marché des spiritueux en lui-même. Enfin bref, moi j'ai adoré, j'ai l'impression que les gens ont bien aimé, puisque beaucoup d'entre vous qui étaient là m'avaient demandé à réorganiser des soirées dégustation privées pour pouvoir goûter des alcools et avoir des explications dessus. Chose que j'ai du coup envie de refaire, parce que vraiment ça m'avait plu. Le problème étant est qu'il faut que je me fournisse en alcool différent toutes les semaines, et donc que je fasse une collab avec une marque. Alors je suis en train de voir avec un distributeur qui aurait beaucoup de bouteilles. Je suis en train de voir avec un distributeur en ce moment pour le faire avec leurs alcools et dans leurs locaux. Bon, ça leur ferait beaucoup de pub à eux, mais bon, j'ai envie de vous dire, ils ont des locaux et plein d'alcool, donc ça leur profite pour la visibilité, et nous, ça nous profite pour faire des rencontres, donc j'attends un petit peu leur retour, et on commencera à organiser ça. Alors, ce sera des dégustes payantes, hein, évidemment, parce que ça nécessite beaucoup d'organisation, beaucoup de temps, et pendant que je fais ça, je fais pas autre chose. Et j'estime que on fait goûter des vrais produits de très haute qualité qui coûteraient le prix d'un billet où vous allez pouvoir en goûter 5 à 10, j'en sais rien, voire même plus. Ça vous aurait coûté la même chose de prendre un verre au restaurant. Donc, et puis il y a des explications. Enfin, c'est un vrai moment éducatif, divertissant et gastronomique, si je puis dire. Enfin, découverte de la gastronomie alcoolique, en tout cas. Donc voilà, il y avait eu une petite visite du chai avec les fûts qui vieillissent dans la cale de la péniche. Description de l'histoire et de la maison Ferrand, donc qui regroupe trois marques d'alcool qui sont Cognac Ferrand, le rhum Plantrait et le gin Citadelle. Et un autre atelier de dégustation, des tonneaux que j'avais achetés chez Ferrand, donc le tonneau de cognac et le tonneau de gin. Et je pense que ceux qui étaient là ont vu du coup toute la palette aromatique et l'énorme différence qui peut exister entre les gammes classiques d'assemblage, les vieillissements faits dans la barge et moi les tonneaux que j'ai achetés directement chez Maison Ferrand. Donc toute une palette aromatique vraiment hyper large, alors que c'était les mêmes marques d'alcool. Et je pense que ça en a surpris plus d'un à quel point ce monde est varié. Alors imaginez avec les multitudes de marques, de terroirs, de climats qui existent dans le monde. En fait, l'alcool est vraiment, l'alcool fort en tout cas, est un monde infini. Et c'est pour ça que je l'adore en fait. Parce que tous les jours est une nouvelle découverte. Donc voilà, pour revenir sur l'événement de la barge de la semaine dernière, il faut savoir aussi que cette semaine, j'ai fait une nouvelle collab avec Maison Ferrand, en plus de celle de la barge. Alors, ils sont très actifs en ce moment et on collabore bien ensemble, donc je suis très content, parce que c'est une maison que j'apprécie vraiment, moi. Et on a fait une collab, en plus c'était une collab rémunérée pour laquelle je suis payé, donc c'est bien aussi de voir des maisons qui s'investissent pour essayer d'aller chercher un public français et montrer ce qu'ils font aux Français et pas se tourner que vers l'étranger. Donc si jamais il y a d'autres marques d'alcool de qualité qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas à me contacter, on peut faire des collabs. Hein, parce que, ça va, la loi E20 ne s'est pas abattue sur nous pour l'instant, on fait ça correctement, on fait ça proprement. Et vous pouvez parler à un public français qui m'écoute et qui est vraiment intéressé, parce que pour rencontrer ces gens-là, enfin, vous qui m'écoutez en tout cas, moi j'étais vraiment surpris sur la barge à quel point vous étiez intéressé, studieux et tout, quand on vous parlait de spiritueux. Donc ça fait vraiment très plaisir. Et donc on a fait une collab où j'ai fait un aller-retour chez eux pour présenter du coup leur parcours de spiritourisme. Donc globalement, c'est le parcours de visite de la distillerie. Donc on peut aller. Alors, ils sont à côté de Cognac. Bon, c'est un peu un trou paumé, hein, mais Cognac, c'est hyper mal desservi en France. C'est ça le problème. Et du coup, excusez-moi. Du coup, c'est pour en faire la promotion. Alors, leur circuit de spiritourisme a l'air de bien marcher, d'après ce qu'ils me disent, quand même. Mais on pourrait faire beaucoup mieux. Parce que ils sont dans le département de la Charente et ils m'expliquaient. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont donné des chiffres différents, mais grosso modo, ils m'expliquaient qu'il y avait entre 2 et 4 millions de touristes par an dans le département de la Charente. Alors que le département qui est juste à côté, qui est la Charente-Maritime et qui est collé à la mer, lui, c'est genre 12, 13 ou 14 millions de touristes par an. Et c'est entre une demi-heure et une heure d'écart l'un de l'autre. Donc c'est assez frustrant quand t'as tout un circuit de spiritourisme qui est à côté, juste à côté d'un département qui fait 4 fois ton volume de touristes. Alors ils engagent de la communication dessus pour en faire la promotion et c'est une très bonne chose, surtout que ils ont tout refait, tout est magnifique chez eux. Donc même pour moi, ça me fait plaisir de parler de ce truc-là. Donc on a fait, bah ça va mettre, de toute façon vous verrez bientôt la vidéo sur Instagram, mais ça met en avant le circuit de spiritourisme, du coup, de la distillerie qu'ils ont appelée distillerie Citadelle, et les ateliers qu'il y a autour, donc atelier de mixologie pour faire ses propres cocktails, atelier de micro-distillation où vous allez pouvoir fabriquer votre propre bouteille d'alcool accompagnée par les experts en distillation qui vont vous guider, avec une très grande diversité de choix possibles. Donc vous pourrez vraiment faire une bouteille d'alcool très personnalisée. Atelier de dégustation de gin, de rhum, de cognac avec les explications qui va avec. Vous pouvez aussi acheter un mini tonneau directement là-bas dans la distillerie. Si vous êtes un groupe de potes et que vous voulez faire votre propre cuvée d'alcool, comme moi je fais avec ma Kizar par exemple, et ben vous pouvez vous amuser à faire ça aussi. Il y a un bar dedans maintenant aussi qui est ouvert tous les jeudis soirs. Et qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre? Ah oui, il y a des bouteilles qui sont. Ça, ils font beaucoup en Écosse et je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils aient fait ça eux aussi. Il y a des bouteilles qui sont exclusives à la boutique. Que vous ne pouvez pas trouver ailleurs dans le monde. Ils ne les fabriquent que pour les vendre dans leur propre boutique. C'est une très bonne idée parce que quand on est fan de la marque, bah ça nous pousse à aller voir la boutique. Et ils ont aussi du gin en pression, comme les bières en pression. Et vous pouvez ramener votre bouteille de gin et ils vous la remplissent directement en pression au bec et à la distillerie. Donc voilà, ils se bougent vraiment, c'est cool à voir. Franchement, si j'habitais dans le coin et que j'achetais leur gin, bah, tu passes, tu vas à la distillerie, enfin tu rencontres vraiment toutes les équipes qui travaillent derrière les bouteilles que tu achètes, tu peux avoir des trucs exclusifs. Enfin, pour un geek des spiritueux comme moi, c'est vraiment merveilleux. Donc, vous allez voir cette vidéo qui va sortir sur Instagram dans pas longtemps. Et dernière petite news, alors on a rentré en distribution. Donc, je suis un revendeur, je suis un des revendeurs, mais bref. Je suis un revendeur de la distillerie Pasquet, distillerie de cognac, qui fait aussi du Pinot des Charentes. Sont disponibles maintenant sur demichelot.com leur cognac Grande Champagne, enfin leur cognac bio en tout cas, 4 ans, le 7 ans et le 10 ans. Très très bon cognac, vraiment très bon cognac. C'est chez eux que j'avais acheté mon tout premier tonneau de cognac pour ma Kizar. Et on a aussi un Pinot des Charentes blanc, Pinot des Charentes rosé. Un Pinot des Charentes qui a perdu son appellation puisqu'ils ont fait infuser des framboises dedans. Donc ça n'a plus le droit de s'appeler Pinot des Charentes, mais c'est un peu le même délire, sauf qu'il y a des framboises infusées dedans. Et un espèce de Pinot des Charentes pétillant, qui pareil a perdu l'appellation Pinot des Charentes puisque ce n'est pas le respect des cahiers des charges. Mais c'est dans la même veine, quoi. Donc voilà, dispo sur le site de michelot.com et pour les professionnels uniquement à Paris, je suis revendeur pour eux. Et je suis très content parce que dès le lancement, ça a très bien marché. Vous avez été beaucoup à prendre du Pinot des Charentes, parce que c'est un alcool qui est vraiment très facile à boire, très bon, très très bon, sucré, très aromatique et qui est pas cher. C'est 19 balles la bouteille sur le site. Donc vous pouvez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Voilà. Alors, le sujet du jour, je voulais vous parler du métier d'embouteilleur indépendant parce que, en parlant quand j'étais sur la barge pendant l'événement privé, je me suis rendu compte que, enfin, en tout cas, il y avait trois groupes et sur les trois groupes, il y en a deux qui m'ont posé la question, mais du coup, à quoi ça sert ton boulot? Je comprends pas l'utilité. Alors, c'est une remarque à laquelle je m'attends souvent parce que c'est vrai que de prime abord, quand on n'est pas du milieu des spiritueux, on peut trouver ça un petit peu inutile, les embouteilleurs indépendants, parce que vraiment, la manière dont on en parle, c'est vrai que ça paraît inutile, il faut pas se cacher. Mais en fait, ça a quand même beaucoup d'utilité. Mais il faut gratter un peu plus en profondeur dans le milieu pour comprendre. En gros, le métier d'embouteilleur indépendant, c'est assez simple. Ça consiste à. Bah, c'est exactement ce que je fais avec Maquisard, avec ma marque Maquisard. Je vais dans les chais. Donc un chais, c'est la pièce où ils font vieillir les tonneaux d'alcool. Donc je vais dans un chais de cognac, dans un chais d'armagnac, un chais de calvar, un chais de whisky, etc. Je goûte directement dans les fûts. Donc c'est-à-dire qu'on prend une pipette et on prend dans les fûts et on met dans les verres et on goûte. J'en goûte une dizaine ou plus. Et si j'en repère un qui est vraiment à mes goûts, que je trouve personnellement très très bon, et ben je demande si je peux l'acheter, tout simplement. Alors là, vous pouvez me poser la question, mais du coup, à quoi ça sert? Parce que si tu l'achètes et que tu l'embouteilles, bah la distillerie, elle aurait très bien pu le faire elle-même, et elle n'a pas besoin de toi, en fait. Quelle est la valeur ajoutée? Quel est l'intérêt? Bon, déjà, un embouteilleur indépendant, il va pas forcément se contenter d'acheter et d'embouteiller le fût. Je peux aussi acheter le fût, le laisser affiner, acheter le fût, prendre le liquide et le mettre dans un autre fût pour faire un finish. Par exemple, je prends du calva, je le sors du fût que j'ai acheté, je le mets dans un fût de vin et je fais mon propre finish. Enfin, voilà, ensuite, je peux arranger le truc à ma sauce. Mais ça a quand même des utilités parce que la plupart des maisons d'alcool, même la quasi-totalité hein, des maisons d'alcool, eux, leur métier, c'est pas de faire des monofûts. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une maison d'alcool, on va prendre une maison de Calvados par exemple, quand une maison de Calvados, elle ramasse ses pommes, elle fait du cidre, et avec ce cidre, elle le distille pour faire de l'eau de vie de cidre qu'elle va laisser ensuite vieillir, et au bout de quelques temps, elle pourra appeler ça le Calvados, c'est 2 ans le Calvados. Il faut savoir qu'après, son but, c'est d'avoir une gamme permanente. Je sais pas, par exemple, du 2 ans, du 4 ans, et du 6 ans, du 10 ans, pour prendre un exemple. Et dans ce cas-là, ils vont avoir ce qu'on appelle un maître assembleur qui est chargé de faire en sorte que le 2 ans ait toujours le même goût, peu importe les années. Ce que je prenais souvent comme exemple, c'est la distillerie de Jack Daniel, parce qu'elle est énorme et qu'elle est partout dans le monde. La distillerie de Jack Daniel, que tu la goûtes en Australie, en Norvège, aux États-Unis ou en France, le Jack Daniel numéro 7, normalement, il a toujours le même goût. Alors qu'il faut savoir que quand tu distilles et que tu mets dans des fûts, chaque fût va donner une identité différente au jus qu'il contient. Et donc là, tu comprends vite le merdier. Quand il faut sortir des millions de litres de whisky et que ce whisky a toujours le même goût, eh bien, il faut assembler les fûts entre eux et faire en sorte de reproduire ce goût en permanence. Bon, Jack Daniel, après, il trafique un petit peu, mais pour une distillerie qui est propre, vous comprenez vite le problème. Et c'est Siri qui s'est lancé encore. Vous comprenez vite le problème, donc il faut vraiment quelqu'un qui ait un nez exceptionnel et qui soit capable d'assembler des morceaux de fût entre eux pour reproduire toujours le même goût tous les ans. Et moi, en tant qu'embouteilleur indépendant, ce que je viens faire au milieu de ce travail qu'on appelle un travail d'assemblage, assemblage de fûts entre eux pour créer une gamme permanente et cohérente et qui ait toujours le même goût, ben moi je viens goûter un fût. Et si ce fût, je le trouve vraiment exceptionnel, meilleur que les autres, etc., en tout cas à mes goûts, eh ben je l'achète et on va faire en sorte qu'il ne parte pas en assemblage. Ça permet quoi? Ça permet déjà d'isoler un fût qui est très bon et pour les grands amateurs de spiritueux, eh ben de goûter quelque chose qu'ils ne pourront jamais goûter ailleurs. Puisque comme je vous l'ai dit, chaque fût donne une identité à l'alcool qu'il contient, donc par définition, vous ne retrouverez jamais le même goût. Ça permet à la distillerie qui te le vend bah, d'avoir un échantillon quelque part qui a été fait par quelqu'un d'autre de ce qu'ils sont capables de produire en dehors des assemblages, donc la qualité des alcools qu'ils produisent avant que ça passe en assemblage. Et ça permet du coup de toucher non seulement une nouvelle clientèle, mais d'acquérir aussi une certaine réputation, que ce soit dans le milieu ou auprès de cette nouvelle clientèle. Et en termes de business, on va pas se mentir, bah, quand tu lui achètes un fût, tu lui donnes de l'argent cash direct, alors que sinon, bah, ça doit faire assemblage, création de gamme, vendre, etc., etc. Donc l'argent, ils le toucheront peut-être dans bien plus longtemps. Et donc voilà, c'est parmi les intérêts qui sont assez évidents. On peut se dire que je peux comprendre qu'on puisse quand même se dire bon bah ça sert pas à grand-chose, en tout cas à part dans la sphère des très gros geeks d'alcool. Mais ce serait enfin se dire ça c'est cohérent, mais quand le marché des alcools va bien. Parce que quand le marché des alcools va pas bien, en fait comme c'est un marché de temps long. Quand le marché va pas bien, tu es quand même obligé de continuer de distiller le maximum de production possible, parce que si dans 10 ans le marché se retourne et se porte très très bien, eh ben tu vas payer le fait que 10 ans plus tôt, tu n'avais pas assez distillé, et du coup, au moment où ça va bien et que tu peux vendre à bon prix et beaucoup de volume, eh ben tu n'as pas ce volume puisque tu ne l'as pas fait 10 ans plus tôt. Et les courbes se croisent en permanence et tu finis par tuer ta boîte. Ce qui fait que quand le marché va bien, bah ouais, les maisons de production, elles gardent peut-être plus leur matos pour elles, pour vendre un maximum de bouteilles. Mais quand ça va pas, bah t'en as certaines qui peuvent se retourner vers des embouteilleurs indépendants en disant ah bah regardez, j'ai tel fût à vous proposer parce que déjà ça leur fait de l'argent. De deux, bah ça leur fait un petit coup de promotion vers des gens qui sont capables d'acheter des jolies bouteilles et qui du coup derrière vont peut-être acheter chez eux d'autres jolies bouteilles parce qu'ils viennent de goûter quelque chose d'exceptionnel. Donc ça a quand même un assez grand intérêt qui est à la fois financier, de réputation, de marketing, qui est aussi pratique, qui permet de moduler tes stocks comme tu en as envie. Et c'est une pratique qui est vraiment extrêmement développée dans beaucoup de pays, notamment l'Écosse, l'Angleterre, l'Allemagne. Un peu moins développée en France, je crois qu'on est 4 ou 5 entreprises à faire ça. Et quand tu vas dans les districts de Calvados, d'Armagnac et tout, ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir ce genre de pratique. Enfin, je dis des conneries, on n'est pas 4 ou 5 en vrai, parce que là-dedans, en tête, j'en ai déjà 7. Mais bref, il y en a qui sont que sur une appellation, il y en a qui sont sur des alcools français, mais aussi des alcools étrangers. Il y a un peu de tout, mais en tête, j'en ai déjà 7. Mais bref, il y a plus ou moins confidentiel, quoi. Et si ça se développe, c'est forcément qu'il y a un intérêt, qu'il y a un marché, qu'il y a une demande, qu'il y a une offre, etc. etc. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, du coup, sur tout ce gloubi-boulga d'assemblage, le fait de sortir un fût d'un assemblage. Parce qu'il faut savoir aussi que moi, j'embouteille ce qu'on appelle donc, c'est des single casques bruts de fût. Donc, single casque, c'est pour dire un seul fût. Donc, la bouteille représente un seul et unique fût. On n'en a pas acheté deux qu'on a mis ensemble. On en a acheté qu'un. Et brut de fût, ça veut dire que c'est embouteillé au degré naturel du fût. Donc, si je l'ai goûté à 51,4 degrés, je l'embouteille à ce même degré-là. Pour que vous ayez vraiment le même liquide que j'ai goûté dans le chai à ce moment-là. Il faut savoir que quand on fait les assemblages, la plupart du temps, c'est pas partout pareil dans les mêmes distilleries, mais la plupart du temps, c'est réduit à 40 degrés. Donc, ce qui fait qu'on ajoute de l'eau, donc on assemble les fûts entre eux, puis ensuite on les réduit à l'eau pour qu'ils atteignent 40 degrés. Et déjà, ça fait plus de volume, puisque tu rajoutes quand même pas mal d'eau pour baisser le degré, donc tu vends plus de bouteilles. C'est aussi un degré qui est bien plus digeste et agréable pour la clientèle aussi. Par contre, tu perds des arômes. Donc c'est là où c'est intéressant l'embouteilleur indépendant, parce que nous, on vend du coup quelque chose qui va être plus cher, parce qu'il y a plus de taxes, plus d'alcool, etc. Mais tu auras vraiment des arômes différents. Tu auras quelque chose hors du commun, qui est vraiment que tu ne trouveras pas pour le grand public. C'est vraiment quelque chose de très niche, très hors du commun, très unique. Et c'est aussi un transfert de risque, on ne va pas se mentir, parce que moi, quand j'achète un fût et que je propose un alcool qui est assez cher à degré naturel, donc assez haut en degré, etc., c'est quand même un risque de vendre ces bouteilles-là que la distillerie ne prend pas, du coup, parce que moi, je lui achète directement le liquide. Donc, il y a aussi cette possibilité de transfert de risque, notamment quand le marché ne va pas très bien, ça fait du cash, un transfert de risque et de la communication. Et là, tu commences à comprendre que la distillerie peut franchement y trouver son intérêt. Donc, voilà, tout l'intérêt du métier d'embouteilleur indépendant, de son utilité dans le marché et la description tout simplement de ce qu'est un embouteilleur indépendant. Donc pour résumer, c'est quelqu'un qui va dans les chais des distilleries, qui goûte directement sur fût. Une fois que ça lui plaît, il achète le fût et après, globalement, soit il l'embouteille tel quel, soit il le laisse s'affiner un petit peu parce qu'il veut voir ce que ça donne, soit il le met dans d'autres fûts pour faire des finishes, ce qu'on appelle plus ou moins particulier. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que par exemple, moi je peux aller dans une distillerie et leur acheter du distillat. Donc, dans tout ce qu'ils viennent de distiller, sur une année, le jus a 0 ans et moi je peux lui dire j'aimerais bien t'acheter 3 fûts. Et comme ça, moi je me crée un stock pour dans 10-15 ans. Et vous comprenez du coup qu'un embouteilleur indépendant qui travaille à flux tendu en achetant toujours plein de fûts, mine de rien, si on fait des investissements de ce style-là, en se constituant nous-mêmes un chai, tu te retrouves dans 10-15 ans à la tête d'énormément de fûts et tu peux faire soit plein d'éditions limitées, soit toi aussi créer du spiritourisme, même faire des marques, des gammes génériques d'assemblage. Il y a des marques en Angleterre et en Écosse qui ne distillent pas, qui ne font que d'acheter du vrac et qui ont leur gamme permanente, même à Cognac. Il faut savoir qu'il y a plein de grandes maisons qui ne distillent pas. Je crois qu'à Cognac, il y a 400, je dis des chiffres à la louche, mais il y a 400 marques de Cognac, grosso modo, pour 1400 vignerons. Donc vous comprenez que dans ce milieu, en fait, il est très, très segmenté. Il y a des gens qui font juste produire de la matière première, qui la vendent et ils ne veulent pas se faire chier. Il y a des gens qui la produisent, qui la transforment et qui la font distiller par d'autres. Il y en a, ils font que de distiller. Il y en a, ils produisent, ils la font fermenter, ils la distillent, et ensuite ils vendent le distillat à une autre marque. Il y en a, ils font tout. Il y en a, ils font juste la commercialisation. Il y en a, ils font juste de l'achat-revente. Il y en a, ils font de l'achat-transformation. Il y a vraiment de tout. Mais à Cognac, tu peux, par exemple, très très bien gagner ta vie en vendant juste tes raisins. Et tu te fais pas chier à créer une marque, à faire du marketing, à faire du design, à trouver un distributeur, à faire des assemblages qui sont réguliers pour avoir une gamme cohérente, à faire des prix, à faire de l'envoi à l'international, à faire des salons, etc., etc. C'est un milieu qui est extrêmement différent de celui du monde du vin. Le monde du vin est quand même souvent le référentiel pour tout le monde, mais dans les spiritueux, ça marche pas du tout comme ça. Donc, ouais, par exemple, les grandes maisons à Cognac, bah, elles achètent du raisin, elles achètent du vin. S'il y en a qui font le raisin, ils font du vin, puis ils achètent à des prix différents selon la qualité de ce qu'on leur livre. Ils imposent un cahier des charges. Enfin bref, il faudrait peut-être faire un épisode de podcast à chaque fois segmenté sur un type de business, mais c'est vraiment pour vous expliquer mon métier avec Maquisard d'embouteilleur indépendant, qui s'inscrit lui plutôt du coup dans la partie finale, c'est-à-dire que moi j'achète les jus distillés ou déjà vieillis pour ensuite les valoriser d'une autre manière et toucher des clients différents, sous un aspect différent, avec un marketing différent, etc., etc. Mais je peux par exemple moi aussi me mettre à acheter et affiner moi-même, parce que si j'achète de l'eau de vie qui vient juste d'être distillée, bah, je peux l'affiner moi-même. Et donc moi, je ne fais pas la partie production de matières premières, fermentation et distillation. Et je vous rassure, il y a, je pense, la majorité des marques d'alcool que vous pouvez boire dans votre vie, elles ne font pas ça non plus. Hein. Parce que c'est une partie qui est extrêmement complexe, avec un savoir-faire très compliqué. Enfin, je ne vais pas me mettre à acheter des vignes et à cultiver des vignes. Enfin, on ne se rend pas compte de la difficulté d'entretenir tout ça. Ceux qui font tout de A à Z, comme je peux faire moi, enfin comme ceux que je vends en distribution, il faut savoir que les Pasquais, ils font tout de A à Z. Ils ont leur vigne, ils font leur vin, ils le distillent eux-mêmes pour en faire du cognac, ils font eux-mêmes les vieillissements, et ensuite ils ont leur marque d'alcool, et ils cherchent des distributeurs, dont moi, qui revends pour eux. Enfin, vous n'imaginez pas la quantité de travail que c'est. Alors qu'ils pourraient juste produire des raisins, à la limite faire du vin et le revendre aux grosses marques qui vont faire, eux, leurs assemblages. Parce que les grosses marques, elles ont besoin de beaucoup plus d'alcool que ce qu'elles sont capables de produire elles-mêmes. Elles font des volumes stratosphériques. Et non, ils vont jusqu'au bout de la démarche, etc. En plus, ils font tout en bio, donc oh là là, à quel point ils se font chier, t'imagines pas. Donc c'est vraiment là un savoir-faire poussé jusqu'au bout, une obstination, une envie d'aller jusqu'au bout dans les détails, etc. C'est vraiment un... Enfin, quand je vois, moi, ne serait-ce que c'est que la difficulté de sélectionner des fûts, les embouteiller, bouger tout à droite à gauche et tout, tout fabriquer de A à Z, c'est extrêmement violent. Ces gens-là sont fous. Ils sont complètement fous, mais il faut les honorer, du coup, en goûtant et respectant leurs produits. Voilà. En plus, rendez pas compte, mais les pinots, t'en as qui sont vieillis. Alors, pas chez les Pasquais, mais enfin, ils en font, je sais pas s'ils en ont des très vieux. Mais il y en a, ils font des pinots qui sont très très vieux, mais des trucs genre 20 ans, et qui vendent ça 20 ou 30 balles. Enfin, la violence, quoi. T'as attendu 30 ans pour vendre un truc 30 balles. C'est du délire. C'est du délire. Bref, je pense que je vais pas forcément m'étaler plus que ça sur le sujet du jour. J'en ai fait un petit peu... Le but, c'est, dans ce sujet, à chaque fois, de vous apprendre quelque chose. Que ça soit pas forcément très long, mais de vous apprendre quelque chose. Donc maintenant, vous savez ce que c'est un embouteillage indépendant. Si vous allez chez le caviste, vous lui demandez, pour la partie spiritueux, vous jouez à ça, hein, vous allez chez votre caviste, un très bon caviste, hein, pas un... Bon, alors après, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, chez quasiment tous les cavistes, il y a des embouteillages indépendants. Vous n'imaginiez pas que ça existait, maintenant que ça existait, maintenant que je viens de vous le dire, vous allez voir, vous allez en voir partout. Vous allez chez un bon caviste qui a une très belle sélection de spiritueux et vous lui dites, bah écoutez, moi j'aimerais voir enfin j'aimerais voir ce que vous avez en embouteilleur indépendant. Alors déjà, c'est aussi une manière de voir qui sont les très bons cavistes. Parce que les très bons cavistes sont des geeks en spiritueux, ils veulent réunir des communautés de geeks en spiritueux dans leur boutique, donc ils achètent aussi des bouteilles d'embouteilleur indépendant, parce que c'est notre milieu, quoi, c'est un milieu de niche. Enfin, c'est une niche qui est toute petite, mais on se reconnaît entre nous. Et vous allez voir, il va vous présenter bah, telle marque, c'est un embouteilleur indépendant. Il a acheté ça, 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 ça. Puis vous allez découvrir un univers colossal. Après, s'il n'a pas Maquisard, vous lui dites: ah ouais, moi j'ai déjà acheté en ligne chez un embouteilleur indépendant qui s'appelle Maquisard, il fait des super trucs. Appelez-le, mettez-en dans vos caves. Mais enfin, bref, vraiment, vous allez. Ce monde des embouteilleurs indépendants, vous allez découvrir un univers qui est bien plus vaste que ce que vous pouvez imaginer dans le monde des alcools classiques. C'est vraiment, quand j'entends des gens me dire: ah, moi, j'aime pas le whisky, parce que j'ai pris une cuite au whisky quand j'étais jeune, je peux plus supporter ça. Mais vous n'imaginez pas à quel point le monde du whisky est vaste. Ces gens-là, je leur fais goûter un whisky sans leur dire. Jamais ils ne sauront que c'était un whisky, tellement c'est différent de ce que je sais qu'ils ont pu boire, parce qu'ils ont bu des trucs de grande surface, en fait. Enfin, des trucs industriels, si vous voulez. Je leur ferais goûter des trucs, mais pff, ils hallucineront, en fait. Et les embouteilleurs indépendants, c'est même aller encore au-delà de ça. C'est de trouver des bombes atomiques, des trucs qui vont te donner des goûts que tu n'as jamais vus. Moi, je prends l'exemple de l'Armagnac 2 ans que j'ai pris. Bah, tu vois, c'est ce genre de risque-là. La balle, ils ont produit un Armagnac, il a que 2 ans. Je leur ai acheté. Donc, ça leur a fait du cash direct sur un truc qui n'a que 2 ans. Et ils ont fait une tentative, en plus. Ils ont fait des essais, OK, tel type de vieillissement et tout, sans savoir ce qu'ils vont donner. Ce que ça va donner. Moi, je suis venu, j'ai goûté une de leurs expériences. J'ai dit: putain, ça me plaît, c'est atypique, on n'a jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais goûté un truc pareil. Je sais pas, c'est extraordinaire. J'ai envie de proposer ça, de faire découvrir ça. Bam, je leur achète et leur expérience, elle se révèle payante. En plus, ils en gardent après pour eux, pour faire vieillir encore plus longtemps et faire d'autres expériences, d'autres assemblages plus tard. Et nous, on isole quelque chose qui n'a que 2 ans, 2023. Mais c'est ça le but d'un embouteilleur indépendant. C'est de pouvoir embouteiller du très très vieux comme du très jeune. Parce que le but, c'est juste d'aller chercher des goûts qui sont uniques, différents et qui vont t'ouvrir à un nouvel horizon. Et je pense que c'est important pour quelqu'un comme moi, en tout cas, qui m'adresse à une communauté qui n'est pas forcément expert dans les spiritueux, mais qui a envie de découvrir des nouvelles choses, de s'éduquer sur ce sujet-là, de vous proposer ce type de produit, de vous faire comprendre que bah, y a du très bon chez les très très jeunes, chez les très vieux, dans les distilleries pas connues, très connues, chez des gens qui distillent, qui font même vieillir, mais qui n'ont pas de marque. Parce que moi, mon but, c'est aussi de vous sortir ça. Des bouteilles de lieux où non seulement vous ne retrouverez plus jamais cette bouteille-là parce que c'est un fût unique, mais en plus, vous ne pourrez jamais acheter une bouteille de cette marque-là puisque le mec n'a même pas de marque. Il vend ses jus à d'autres gens. Et là, tu te rends compte que ouais, à Cognac, il y a des gens, ils ont des vignes, du vin, du cognac qui font vieillir, mais ils n'ont pas de marque. Ils vendent les tonneaux à d'autres gens. Et là, tu te dis, putain, mais en fait, il y a des gens chez eux, ils ont des fûts et tout. Et là, tu découvres un univers, mais la palette de choix possibles est juste infinie, gigantesque. Et avec les histoires qui vont avec, les familles, les personnes qu'on produit. Enfin, c'est assez difficile de retranscrire toute l'identité derrière... derrière les bouteilles qu'on fait, toute l'histoire et tout, même si j'aimerais bien. Je pense qu'il faudrait que je récupère quelqu'un qui est spécialisé dans les storytelling, marketing, etc. Mais ça sert aussi à ça, ce podcast, parce que je peux me poser sur un temps plus long et bien vous expliquer. Mais enfin bref, je pense que vous avez compris du coup l'intérêt et l'utilité des embouteilleurs indépendants. Et n'hésitez pas à aller chez votre caviste et à lui demander. Des embouteilleurs indépendants, vous allez voir. Tout nouvel univers qui s'ouvre à vous. Et bien sûr, si vous avez toujours été hésitant sans comprendre trop ce que c'était, et bah achetez un Maquisard sur demichelot.com. Bouteille de Maquisard. Il y en a 6 références en ligne en ce moment. Donc vous avez du choix. Il y a 2 cognacs, un calva, un whisky et 2 armagnacs. Voilà. Bref, c'en est fini pour le sujet du jour aujourd'hui. Je vais passer à quelques petites recommandations, puis vos questions. Alors, en recommandation, je vais essayer de faire des restaurants, plutôt un restaurant à chaque fois, de la bouffe et des spiritueux. Alors, en restaurant, je vous conseille, je suis encore allé récemment et j'y vais très souvent, c'est vraiment un de mes restaurants préférés, restaurant Casimir, dans le 10e arrondissement, juste à côté de Gare du Nord. Alors, le lieu n'est pas autour de Casimir, c'est le Mordor, c'est l'enfer. Mais une fois que vous arrivez dans Casimir, là, c'est merveilleux. La cuisine est super bonne. C'est le deuxième restaurant du patron qui possède le restaurant Bon Vivant dans le 5e arrondissement, que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux et tout, parce qu'il est assez populaire et qu'il fait pas mal de trucs. Et il s'est racheté un nouveau restaurant dans lequel il fait pas exactement la même cuisine. C'est moins tourné barbac, frites et tout. Et il y a vraiment plus de. Bon, je sais pas trop comment dire, mais disons que c'est un peu plus bistronomique si vous voulez. Et c'est vraiment sublime, quoi. Si vous êtes deux, vous y allez, vous prenez le bœuf Wellington, mais vous allez décéder, quoi. C'est sublime. C'est magnifique. Son chef est argentin, il me semble. Enfin, le gars, c'est extraordinaire. Ce qu'il sort à chaque fois que je vais là-bas, je me régale. Même le pain est bon. Enfin, il y a un moment. Voilà. Donc, Casimir, n'hésitez pas. En plus, il y a deux Michelots là-bas. Donc, vous pouvez finir sur une petite verveine de Michelots à la fin. Pour vous terminer le bide et vous allez être très bien. Je ne sais pas si ça s'entend, mais j'ai à moitié le nez bouché, j'ai une oreille bouchée, donc quand je parle, ça résonne dans ma tête, ça c'est abominable. En aliments, petite recommandation de la semaine, en ce moment, je suis allé chez le fromager un moment et j'ai pris un fromage qui s'appelle le gris du Périgord. Et bah, c'est magnifique. C'est vraiment sublime, c'est vraiment la même texture. Il y a un petit peu les mêmes saveurs que le reblochon. Alors, je vais peut-être me faire dégommer en disant ça. Mais j'y trouve vraiment beaucoup de similitudes, surtout dans la texture, le goût, enfin, vraiment dans tout, à part le fait que le gris du Périgord est, comme son nom l'indique, gris et que le reblochon, c'est plutôt blanchâtre. Mais vraiment, je m'atomise à ça. Et si je peux vous donner un petit conseil, oula, petit SMS. Alors, le gris du Périgord, il me semble, c'est fabriqué à Saint-Antoine. Ah bah tiens, je l'ai sous les yeux. Saint-Antoine de Breuil. Alors voilà. Bah, qui veut du fromage.com, il va me faire une meilleure description que ce que je peux vous faire. Attention. Attendez, attendez, attendez. Fabriqué à la fromagerie de Saint-Antoine de Breuil, gris du Périgord allie une texture gourmande et onctueuse à des notes végétales et de noisettes fraîches. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement cette fromagerie-là qui le fait ou si qui veut du fromage.com m'a vendu le gris du Périgord d'une seule fromagerie. Enfin bref, gris du Périgord, coupe de 1,2 kg, magnifique, c'est tout ce qu'on veut. Et vous associez ça avec une petite gelée au piment d'Espelette. Ma, 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 putain, j'ai envie d'en manger. J'ai envie d'en manger. Je vais aller chercher du gris du Périgord dans mon frigo pour finir ce podcast. C'est sublime. Petite gelée. En fait, j'ai découvert la gelée au piment d'Espelette quand j'étais chez la maman de Antoine Explore la France. Et elle nous avait servi un fromage qui est très très rare. Fromage de l'abbaye de Cîteaux. Parce que c'est des moines qui en font, ils en font pas beaucoup. Et elle nous avait servi ça avec la gelée au piment d'Espelette. Et depuis, putain, j'ai craqué pour ces associations-là. Les fromages comme ça. Un peu onctueux, mais qui se tiennent quand même encore un peu. Ils sont onctueux, mais encore avec une belle tenue. Et gelés au piment d'Espelette qui apporte un petit côté piquant et sucré. Oh là 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 là. Faut pas en mettre 3 tonnes, hein. Faut pas faire son obèse de première. Hein. Mais hop, une petite pointe. Une petite pointe. Pop, 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 pop. Parce que autant le piment d'Espelette en poudre, j'en ai déjà acheté et tout, même. Enfin, mis dans les plats et tout. Je trouve qu'il y a un. Alors, je vais me faire tabasser par les gens du Sud-Ouest, hein, mais il y a un très grand effet déceptif. Voilà, je l'ai dit. Je pense que le piment d'Espelette brut est bien mieux. Celui en poudre, là. Ouais, déjà, je trouve que ça sent rien. Ça sent pas grand-chose. Ça donne pas beaucoup de goût. Ça rajoute du piquant et tout. Un influenceur, là, sur les réseaux qui fait de la bouffe tout le temps, qui s'appelle Woogies, il dit tout le temps j'adore le piment d'Espelette. Et il met du piment d'Espelette en poudre. Alors, je sais pas si le sien a des super pouvoirs, mais en tout cas, moi, j'en ai essayé plusieurs. À chaque fois, un très, très grand effet déceptif. Très, très grand effet déceptif. Par contre, la gelée au piment d'Espelette, ça me fait oh putain. Bref. Très, très bon. Je vous le conseille. Gris du Périgord. Vous allez chez le fromager, vous demandez ça. Et si il dit j'en ai pas, vous changez de fromager parce qu'il est incompétent. Le mec, il connaît pas grand-chose en fromage, mais. Enfin bref. Et petite recommandation spiritueux. Alors, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais comme j'en parlais à quelques potes en ce moment, la distillerie Ether. Alors, je sais, c'est le podcast Dose de France, etc., mais on va l'ouvrir au bon goût. Du coup, on va s'élargir des fois un petit peu à gauche, à droite. Il y a une distillerie qui s'appelle Ether, qui fait des eaux de vie, et notamment des eaux de vie de noyau, en Suisse. Elle est suisse. Mais putain, ce que c'est bon! Je fais de plus en plus de restos qui l'ont et tout. Oh là 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 là. Oh là 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 là. L'eau de vie de noyau de la distillerie Ether, je crois que c'est E2TER en Suisse. Si à un moment, si vous êtes suisse et que vous écoutez ce podcast, ou si à un moment vous allez en Suisse, essayez de vous choper une de leurs bouteilles. Vraiment très bon. Alors après, leurs eaux de vie de fruits et tout, j'ai pas spécialement goûté. Mais quand je vois la qualité de distillation de ce que j'ai goûté chez eux, à mon avis, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ensuite, deuxième recommandation. Alors, c'est la Maison du Whisky qui m'a envoyé des petits échantillons de plusieurs nouveautés qu'ils ont. Ils m'en ont envoyé 2, 4, 6, 8, 9. Je vais pas tout vous parler de tout d'un coup, puisque il faut faire durer dans les podcasts. Donc là, je vais vous parler que d'un seul. En plus, je les goûte un à un et je vous en parle que si j'ai vraiment bien aimé. Mais bon, la Maison du Whisky, ils font quand même des sélections qui sont quand même qualitative. Enfin, les mecs ont pas un palais qui a léché les bouches d'égout, si vous voyez ce que je veux dire. Disons qu'il y a toujours des sélections de très haute qualité. À chaque fois, je fais avant le whisky live, je fais le catalogue. Je me dis putain, les enfoirés. Bon, déjà, ils ont accès à des trucs de dingue. Bon, ça, c'est l'avantage d'avoir une boîte qui pèse plusieurs dizaines voire centaines de millions d'euros et d'avoir des connexions depuis plusieurs dizaines d'années dans le monde entier avec toutes les distilleries. C'est que tu as accès à des tonneaux de dingue. Du coup, vous voyez, la Maison du Whisky, quand ils font des sélections pour la Maison du Whisky, alors là, c'est pour le coup la bouteille dont je vais vous parler, ce n'est pas le cas, mais ils font aussi des sélections pour la Maison du Whisky. Et dans ce cas-là, ils font embouteilleurs indépendants, comme moi je fais, puisqu'ils achètent un tonneau qu'ils embouteillent et qu'ils vendent sur le site de la Maison du Whisky. Donc là, vous vous rendez compte que y en a. Ah, ça va beaucoup plus loin que ce que vous imaginez. Il y a même des sites qui font ça. Il y a même des distributeurs qui font bouteilles indépendantes. Ils font même des fois des sélections chez des tonneaux d'embouteilleurs indépendants sur lesquels ils ne mettent pas leur nom mais qui sont vendus en exclusivité sur leur site et que c'est eux qui ont sélectionné. Ah là là là, c'est-à-dire que vous ne savez même pas que c'est la Maison du Whisky qui l'a sélectionné. Enfin bref, c'est un enchevêtrement de choses. Vous n'imaginez pas la profondeur de ce milieu. J'y suis depuis plusieurs années et même moi, je n'imagine pas encore la profondeur de ce milieu. C'est dingue. C'est absolument dingue. Bon, là, pour le coup, l'alcool dont je vais vous parler, c'est un whisky d'une distillerie française et plus précisément bretonne. C'est un whisky de la marque Armorique, donc de la distillerie Waregem. J'espère que je le prononce bien, Waregem. Donc, ils ont une marque de whisky à la distillerie de Waregem qui s'appelle Armorique avec un K à la fin. C'est un single cask brut de fût. Alors j'ai lu juste avant. Alors c'est un single cask. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. Single cask, un seul fût. Donc ils ont fait une expérimentation. Un fût de Sherry Oloroso et brut de fût. Ça j'imagine il n'y a pas beaucoup de difficultés puisqu'il est à 59,9 degrés. Vous en serez témoin, c'est quand même assez rare dans les éditions génériques de trouver quelque chose qui est à 59,9 degrés. Donc oui, c'est là, c'est un petit indice pour que vous sachiez que c'est un brut de fût. Une bouteille de 70 centilitres qui sort à 109 euros. Putain, les mecs sont bons, quoi. Il a 5 ans, 70 centilitres à 60 degrés, enfin 59,9. 70 centilitres, 109 euros. Franchement, chapeau, bah, putain, je m'attendais pas à ça. Pas cher, pas cher, pas cher. Donc c'est un whisky que j'ai goûté là ce matin. Très bon. Alors, faut aimer la tourbe, c'est très très tourbé, mais c'est ces tourbes qui ont un nez un peu fumé qui les rend pas trop vulgaires, quoi. C'est très agréable. On peut y passer le nez pendant plusieurs minutes. Je trouve que ce qui rebute un peu souvent les gens, c'est les tourbes très végétales, très médicinales, ce qu'on n'a pas là-dessus, qui est une tourbe vraiment fumée, quoi. Et bah après, il y a beaucoup de richesse aromatique, beaucoup de précision, d'équilibre, d'élégance. Enfin, voilà, c'est un single cask très bien fait. De toute façon, la distillerie Waregem avec Armorique, à chaque fois que je goûte un single cask, le truc, c'est une masterclass. Mes deux coups de cœur, Enfin, parmi mes coups de cœur du Whisky Lab de l'année dernière, il y a deux single casques de Armorique. Enfin, les gars, on commence vraiment à avoir des marques françaises, distilleries françaises de très très haut niveau maintenant, hein. En France, avant on pouvait un peu clasher et tout. Maintenant, faut acheter en fait. Parce que les gars font vraiment de très bons trucs, hein. Le Maquisard single cask brut de fût que j'ai sorti avec distillerie des hautes glaces, donc le 8 ans d'âge, 100% ex-cognac à 51 degrés. Pouf, pareil, quoi. Le truc, c'est. Enfin, quand j'ai goûté dans la distillerie, c'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique, quoi. Les mecs travaillent super bien. Enfin, maintenant, on a quand même des producteurs de whisky français de très, très, très haut niveau, hein. Faut s'en réjouir. Faut s'en réjouir. Voilà. C'était tout pour ça. Oui, du coup, vous pouvez trouver ce whisky armorique qui porte le nom de Yeun Ales, spécial mois du whisky français 2025. Donc, vous pouvez taper ça. Armorique Yeun Ales, spécial du mois du whisky français 2025 de la distillerie Armorique à 109,59 degrés sur le site de la maison du whisky. Je les remercie pour les échantillons. Je ne suis pas payé pour dire ça, mais bientôt, je vais quand même leur demander de l'oseille. J'avertis, hein, si quelqu'un de la maison du whisky écoute ce podcast. Je vais vous faire des pubs plus appuyées, mais enfin, non. Mais il y a un intérêt en allant sur le site de la Maison du Whisky parce qu'ils ont un. Je crois qu'ils offrent les frais de port à partir de 130 euros, un truc comme ça. Donc, si vous achetez leur bouteille, sachez que les liqueurs de Michelot, donc ma marque de liqueur, est aussi en vente sur le site de la Maison du Whisky. Donc vous prenez la bouteille, une petite liqueur de Michelot, hop, vous êtes au-dessus des frais de port, vous recevez les bouteilles gratos. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Donc, vous pouvez aussi acheter les liqueurs de Michelot sur le site de la maison du whisky. N'oubliez pas ça. N'oubliez jamais ça. Jamais oublié. Bon, je passe à la dernière rubrique, vos questions. Alors, première question, j'en ai pris trois. Première question de Simon JN35. Est-ce qu'il y a une limite de temps de consommation pour un alcool qui vient d'être ouvert? Alors, Simon, oui, il y a une limite. Parce que, en fait, quand tu l'ouvres, tu fais rentrer de l'oxygène dedans. En plus, tu fais baisser le volume d'alcool, donc tu augmentes la part d'oxygène dans la bouteille. Il faut savoir aussi que, bon, les spiritueux, en général, c'est 40 degrés d'alcool ou plus. Là, comme vous voyez, c'est des trucs à 60 degrés d'alcool. Ça tient quand même beaucoup mieux dans le temps que le vin, quoi. Enfin, le vin, il faut le boire direct. Donc, pas de stress non plus. Il faut bien que tu le refermes hermétiquement, hein, tu renfonces bien le bouchon et tout. T'es pas obligé de te déboîter la bouteille dans la semaine. Hein. Tu peux même, moi, il y a des bouteilles qui sont ouvertes depuis 2 ans, je regoute. Alors ça a peut-être un peu changé, mais c'est pas non plus un drame. Et il faut savoir que plus c'est fort en alcool, plus normalement ça va bien tenir. Donc tu peux la déguster à un rythme très tranquille sur toute une année, il n'y a pas de souci. Après, si c'est de Michelot, tu peux la vider très rapidement et en racheter une autre. Ça, voilà, ça te regarde. Donc non, pas de stress. Par contre, pour conserver les bouteilles de spiritueux, c'est debout, position verticale, pas comme le vin. Le vin, c'est horizontal pour que le vin touche le bouchon. Dans les spiritueux, il faut pas que l'alcool touche le bouchon. Donc c'est vertical et à l'abri de la lumière du soleil, donc si possible dans un placard. Deuxième question. Passion Napoléon. Comptes-tu aborder la question des spiritueux dans l'histoire de France? Et bien pour un conte qui s'appelle Passion Napoléon, ta question ne me surprend pas. Alors j'ai déjà fait des reels sur Instagram qui évoquaient un petit peu des spiritueux dans l'histoire, notamment Vital, un religieux dans le sud-ouest de la France qui avait fait les 40 vertus de l'Armagnac, qui est un document qui a 700 ans et qui est dans les archives du Vatican encore aujourd'hui, un document authentique. Donc, bah voilà, j'en ai parlé, ça fait 700 ans, donc c'est un petit peu dans l'histoire. J'avais parlé aussi, j'ai fait les comparatifs avec des vieux alcools, vieilles bénédictines des années 60. J'avais parlé d'une liqueur de 1910 que j'ai chez moi. J'ai parlé de l'histoire aussi de certaines distilleries. Le problème des reels, en fait, c'est que ça disparaît très vite. Donc, si vous les avez ratés, bah, vous avez l'impression que j'en ai jamais parlé. Et c'est bien normal. Je devrais peut-être faire sur YouTube. Depuis le temps que je dis que je devrais faire YouTube, je le fais pas, mais j'ai tellement de trucs à faire, c'est. Je suis dépassé. Je suis épuisé en ce moment. Les amis, je suis épuisé. Épuisé. Je me confie à vous, je suis épuisé. Le Spation Napoléon, j'avais même fait une vidéo sur sur pourquoi il y avait des cognacs qui s'appelaient Napoléon. Donc, compte d'âge qui n'existe plus aujourd'hui, mais il me semble que c'était des 8 ans, 8, 6 ans ou 8 ans, 8 ans, je crois. Hein. Napoléon, c'était des cognacs de 8 ans minimum. Et ça n'existe plus aujourd'hui en appellation officielle. Et surtout que Napoléon ne buvait pas de cognac, il buvait du Gevrey-Chambertin. Donc, si je dis pas de conneries, j'avais fait une vidéo là-dessus aussi. Et il buvait des Gevrey-Chambertin coupés à l'eau. Donc voilà, il buvait du très très bon vin de Bourgogne, mais avec plein de flotte dedans, ce qui fait de lui quelqu'un d'un peu moins respectable que ce qu'on pouvait imaginer. Bref, infini respect sur Napoléon quand même, mais s'il te plaît, bois normalement. C'est bizarre ce que tu fais. T'as du Gevrey-Chambertin, tu fous 1 litre de flotte dedans. C'est abject, c'est une attitude abjecte. Et dernière question de Rambelouis. Es-tu fier de toi aujourd'hui? Question très profonde, parce que j'avais fait un post récemment pour dire que j'étais enfin fier de moi pour une chose, c'est d'avoir sorti ces 5 embouteillages Maquisard récemment, avec des distilleries qui me faisaient rêver quand j'étais caviste. Donc j'avais éprouvé un certain sentiment de fierté qui a disparu, puisque depuis, à chaque fois tu passes à quelque chose, à un nouvel objectif. En fait, j'étais fier de moi, mais pas non plus en extase. Je vous avoue que je me confie. J'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup de mal à être fier de moi, à être authentiquement fier de moi. Je trouve toujours que je travaille pas assez, je bouffe trop, j'aimerais bien faire plus de sport, changer de... Enfin, être mieux physiquement et tout, et je le fais pas parce que j'arrive pas à me retenir de bouffer. Dès que j'ai un coup de mou, je bouffe de la merde. Bon, j'essaye d'aller au sport quand même, c'est pour ça que je compense, mais je trouve que je pourrais travailler beaucoup plus. À chaque fois, je croise dans ma vie, je croise beaucoup, beaucoup de gens qui ont des entreprises, et des fois, je me dis putain, la vache, mais lui, il travaille d'arrache-pied, quoi. J'ai l'impression de rien branler à côté de lui. Je pourrais faire mieux, plus, plus fort, plus vite et tout. Et ce qui fait que j'ai toujours un essai déceptif sur ce que je fais. Alors, d'un point de vue extérieur, on pourrait me dire, bah, tu réussis plein de choses et tout. Mais voilà, j'arrive pas à m'en contenter. C'est peut-être un vrai défaut, mais j'arrive pas à m'en contenter. J'aimerais apprendre à faire des vrais trucs de mes mains, passer un CAP cuisine, par exemple. Je m'étais renseigné, mais je l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps. La chasse, apprendre à chasser moi-même, découper, préparer, me nourrir moi-même, je sais pas, avoir un potager, faire de la mécanique et tout ça, je fais pas en fait, parce que je suis trop pris par le business et tout. Et ce serait là, je pense que j'aurais une vraie fierté quand j'arriverai à prendre le temps et à apprendre des vraies compétences de mes mains. Et ça, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup et qui est quand même un peu un complexe. Sur lequel j'aimerais remédier et je voudrais le faire quand j'habiterai peut-être un peu plus à la campagne. Mais déjà, je vais passer mon permis de chasse là, donc ça va quand même aider et je vais me forcer à prendre le temps. Prendre le temps de bien cuisiner, prendre le temps de savoir moi-même aller chercher ma bouffe et tout. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire, mais même approfondir mes connaissances en gastronomie, en alcool et tout, même si j'en ai déjà. Mais il faut que je prenne le temps de faire tout ça et je le fais pas assez et ça me frustre. Donc, est-ce que je suis fier de moi? Non. Non. Est-ce que je le serai un jour? Je ne sais pas. Je suis toujours très très dur avec moi-même parce que je trouve que ça me pousse à aussi avoir des meilleurs résultats. Mais c'est aussi naturel chez moi en fait. J'ai toujours été avec un œil plutôt dur sur moi-même. Voilà, donc je peux pas prétendre à dire que je le suis maintenant. Mais il faut apprendre à l'être aussi, parce que ça peut... Enfin, regarder aussi le chemin parcouru, il ne faut pas toujours regarder devant, mais regarder aussi derrière, voir ce qu'on a accompli, parce que sinon on peut être dans une frustration et un ressentiment permanent qui nous détruit. J'en ai conscience, hein, j'en ai conscience, mais voilà, c'est ma personnalité. Enfin bref. C'est la fin de ce podcast, on est bientôt à 1 heure. J'ai encore bien blablaté. Certains aimeraient que je le pousse un peu plus, alors c'est assez difficile. Enfin, peut-être que je travaille des sujets vraiment très en profondeur. Mais je trouve qu'une heure, c'est pas mal parce que ça peut s'écouter en une fois et ça vous oblige pas à couper. Enfin bref, je trouve ça pas mal. Donc écoutez, si vous voulez me soutenir, demichelot.com, commence à avoir pas mal d'alcool, hein, des eaux de vie de fruits, des liqueurs de plantes, des cognacs, des pinots, tous les maquisards, donc des armagnacs, calvados, whisky, du gin, de la vodka, etc. Donc on a plein de trucs différents maintenant. Vous pouvez y aller, demichelot.com. Et puis hâte d'organiser des nouvelles dégustations privées pour vous rencontrer et vous transmettre des connaissances. Voilà, merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, ciao.